Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Attention.
Enfin la tondeuse à gazon a cassé. Ferons-nous la sieste tranquille. Mais non, son gros chien est toujours aux aguets. Ne va pas cesser d'aboyer. Les motos qui passent en pétard.
Écoutez, voilà, moi j'y suis pour rien, Patrick. Vous me regardez avec de gros yeux en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Paul, notre réalisateur, qui de temps en temps a des envolées comme ça, de créativité, et va trouver des chansons que même les auteurs ne se souviennent pas. En fait, c'est ça qui est terrible. Alors, on va évoquer maintenant donc les alternatives au gazon. Patrick, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein. C'est vrai qu'avec les derniers problèmes climatiques de cette année, enfin de ces dernières années, on peut se dire, ben voilà, tiens, les pelouses qui sont transformées en paillassons, est-ce qu'on peut les récupérer? Et quelles sont les autres possibilités, en fait?
Ben, c'est-à-dire qu'on a eu une sécheresse assez importante, et c'est surtout la troisième année où on a des étés secs et assez chauds, et ce qui fait que ça a fait quand même une pression environnementale forte, et notamment sur les gazons. Parce que on rêve tous, plus ou moins, d'une pelouse à l'anglaise. Je vous rappelle quand même que les îles britanniques, elles sont soumises à une influence maritime très forte, avec une humidité qui est le premier élément moteur de l'obtention d'un bon gazon. Après, effectivement, il y a toute une technique derrière ça, mais quand même, vous avez toujours des plus belles pelouses, on va dire, au nord ou à l'ouest que au sud, et c'est normal.
Patrick, les pelouses paillassons, est-ce qu'elles sont récupérables et comment on peut faire?
Alors,
donc cette pelouse qui ressemble à du foin, quoi. Ça.
Paillassons, elles sont devenues, exactement, toutes jaunes, moches, etc. Bon, on peut dire, comme je l'ai déjà dit avec notre auditeur du début de l'émission, qu'il n'y a pas forcément péril à 100%. On a reçu une quantité d'eau assez sympathique depuis le début de l'automne. Ça va continuer. Laissons passer l'automne, laissons passer l'hiver, attendons la repousse, parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'élément moteur de croissance sur le gazon. Donc, il est certain, j'allais dire probable, mais il est certain qu'une partie des pelouses qui ont subi la sécheresse de cet été ne redémarreront pas. D'ailleurs, vous pouvez vous dire une chose. Si vous avez passé tout l'été sans mettre une goutte d'eau sur votre gazon, est fort probable,
capote,
ça va être compliqué. Voilà. Mais si vous avez un peu arrosé, etc., bon, il est moche et tout, vous pouvez quand même lui redonner encore une chance.
Parmi les plantes qui composent le gazon, est-ce qu'il y en a certaines qu'on peut privilégier dans la perspective justement de nouvelles saisons avec pas beaucoup d'eau?
Alors François, je pense que c'est la question clé.
Et bien sûr.
Très importante, parce que d'habitude, on ne regarde pas les compositions de gazon. Quand vous achetez un paquet de graines de gazon, vous achetez gazon pour ornement, pour sport et jeu, pour agrément, etc., pour jardin méditerranéen, mais vous regardez pas de quoi est fait ce gazon. Or, la composition est obligatoire et vous avez une étiquette sur le paquet qui vous donne les espèces, parce que je rappelle que le gazon est le mélange des différentes espèces de graminées qui vont vous donner, au final, la pelouse. Alors, regardez s'il y a de la fétuque rouge semi-traçante. Ça, c'est très important, ainsi que du pâturin des prés. Ce sont sans doute les deux espèces les plus résistantes à la chaleur et à la sécheresse. Je parle là de gazon classique, qui ont une résistance peut-être moyenne au piétinement, enfin correcte, donc faut pas en faire des stades de foot, mais qui ont la difficulté de ne pas s'installer rapidement. Pour que une pelouse qui est principalement constituée de fétuque rouge semi-traçante et de pâturin des prés soit belle, il faut attendre pratiquement un an. C'est pourquoi on ajoute aussi du régras qui peut avoir une durée de vie plus courte et qui peut disparaître une fois que le reste est installé.
Quelles sont les graminées à gazon qui craignent justement la chaleur et la sécheresse?
Alors, celle qui craint le plus la chaleur et la sécheresse. C'est la plus fine, c'est celle que l'on utilise sur les greens de golf et qui s'appelle l'agrostide. Ça, cette agrostide, vraiment, c'est la finesse idéal, mais c'est la graminée la plus sensible. Mmh. Et puis le régras anglais dont je parlais précédemment, qui lui est sensible à la chaleur au point de se mettre en dormance souvent pendant toute la période de l'été. Et là, c'est lui qui souvent jaunit principalement. C'est pour ça que je vous disais, laissez une chance, parce qu'il peut redémarrer. Voilà, parce qu'il reverdit facilement.
Est-ce qu'il existe une plante un peu passe-partout, hein, qui serait quand même résistante et qui fera un bon gazon?
Alors, il y en a une qui est pas mal, mais de toute façon, on la trouve pas toute seule. Ou du moins, ça va pas faire un joli gazon si on la met toute seule. Ça s'appelle la fétuque élevée, celle-là. Alors, c'est très, très résistant à tout. En fait, bon, qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse sec, tout ça, ça marche. Ça se piétine très, très bien. Là, vous pouvez vraiment marcher dessus tant que vous voulez. Ça dure très longtemps. Mais en revanche, si vous ne faites pas une préparation du sol hyper soignée, ouais, surtout si vous ne retirez pas toutes les herbes qui pourraient la concurrencer, eh bien, elle ne s'implantera pas. C'est pourquoi on la trouve jamais toute seule dans un gazon.
Alors à l'inverse, Patrick, quels sont les graminées à gazon qui craignent la chaleur et la sécheresse?
Bah c'est celle qu'il faut éviter, parler, en fait. Celle qui craigne la chaleur et la sécheresse, on vient d'en parler, c'est l'agrostide et le régras anglais.
D'accord. Et est-ce qu'il n'existerait pas une plante un peu, on l'a dit aussi, passe-partout, voilà, qu'on a évoqué il y a un instant. Parlez-nous du kikuyu, tiens. Qu'est-ce que c'est le kikuyu?
Alors, le kikuyu, c'est une graminée hein, qui s'appelle Penicetum clandestinum. Mmh. Bon, c'est une plante que l'on voit essentiellement dans les pays tropicaux. C'est très résistant, très très résistant à la chaleur, mais ça a un défaut, ça n'aime pas trop la sécheresse. Donc quand vous faites des grandes belles pelouses au bord des pelouses dans les grandes villas de la Côte d'Azur qui restent vertes tout le temps, souvent c'est du kikuyu, mais on les arrose. En revanche, vous avez le faux kikuyu, le Stenotaphrum, qui lui est une plante qui n'aime pas trop la fraîcheur, hein, moins 5 degrés, il commence à jaunir un peu, mais qui est résistant au piétinement, à la sécheresse, à la chaleur, qui pousse vite, etc. Donc ça, c'est vraiment l'idéal presque pour les zones de l'autre côté de la Méditerranée. De même que le gazon des mascareignes, de même que le chien d'ampel pied de poule, qu'on appelle aussi l'herbe des Bermudes. Alors, c'est des plantes qui sont beaucoup plus larges, beaucoup moins fines que nos gazons habituels, mais qui, dans les régions les plus exposées à la chaleur, donnent des bons résultats. Et on les voit maintenant de plus en plus proposées dans le commerce.
Voilà pour le gazon. Il est 6h38, c'est RMC. Patrick, il est temps de retrouver maintenant notre météo du jardinier. En ce 19 octobre 2019, vous avez jeté un petit coup d'œil sur les cartes de Météo France. Pour les jours qui viennent, est-ce qu'on a des précautions particulières, nous jardiniers?
Bah alors, on va dire que les jardiniers du Sud vont rester bien à l'abri, tranquille à la maison, à regarder la pluie tomber, qui est tout à fait attendue et qui va faire le plus grand bien. Dans la partie, disons, moitié au-dessus de la Loire, on va avoir l'opportunité de jardiner correctement. On aura de temps en temps des petites entrées de pluie, mais ça sera beaucoup moins dense et beaucoup moins régulier que dans la partie, alors pas que méditerranéenne, parce qu'on aura surtout, on va dire, toutes les Pyrénées, toute la frange méditerranéenne, le Rhône-Alpes, qui eux vont être vraiment soumis aux pluies cette semaine, enfin la semaine prochaine. Alors attention, les indices de Météo France sont à 3 seulement.
D'accord.
Donc ça ne veut pas dire forcément
que c'est du
rubis sur l'ongle. Mais on va avoir quand même un temps un peu automnal, avec des températures qui peuvent atteindre 6-7 degrés le matin. Donc on a, à partir de mardi, on sentira quand même cet automne. Donc si vous avez des plantes très très frileuses, vous pouvez commencer à les rentrer. Ça restera très doux en revanche sur la Méditerranée. Et après, alors vous rendez compte, mon cher François, que oui, on va avoir en Corse demain 30 à Ajaccio.
Non, c'est dingue. Hein,
mais après ça va diminuer, et on aura toujours 24-26 degrés.
Ouais, ce qui est pas
alors
mal, hein.
Que on aura du mal parfois à atteindre les 20 degrés sur le continent. Mmh. Donc on est vraiment, nous, disons les continentaux, dans une période vraiment de l'automne. Côté jardin, vous pouvez vous mettre aux plantations, notamment dans la moitié nord, puisqu'on a reçu pas mal d'eau. Le sol s'est bien ramolli. il est frais et les conditions sont optimales pour planter. Une chose importante, nous sommes en période de récolte, et notamment de récolte des pommes et des poires. Il faut se dépêcher de les récolter, parce que si on continue à être sous d'une influence très très humide, les conservations vont être plus difficiles. Donc il faut récolter, mettre les fruits, alors pas entassés, il faut les mettre dans des clayettes, etc., dans un endroit qui soit bien aéré pour qu'ils ne soient pas humides une fois que vous les mettrez en conservation. C'est pas facile toujours d'être un jardinier de verger, parce que les récoltes de fruits que l'on fait maintenant ne donnent pas des fruits consommables immédiatement. Vous avez des pommes et des poires que l'on consommera dans un mois, voire dans deux mois. Donc il faut avoir le local pour les entreposer, mais il faut bien vérifier qu'il n'y aura pas d'humidité pour éviter les moisissures, bien entendu.
Patrick, on va revenir dans un instant. Nous écouterons la question d'un auditeur et puis on terminera ce rendez-vous jardin avec votre coup de cœur, vos coups de cœur de cette semaine. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez nous joindre 3216, l'appli RMC Direct Studio. C'est le week-end des experts et c'est le jardin sur RMC et c'est exclusivement sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC
jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, 7h moins le quart. Un grand bienvenue à vous qui venez peut-être d'arriver sur RMC. C'est le week-end des experts. Vous êtes au cœur de ce rendez-vous jardin. À 7h, la météo, les infos. Et ce sera la maison avec Christian PC qui me rejoindra. Patrick, Arnaud nous attend au 32-16.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour Arnaud.
Bonjour Arnaud, bienvenue.
Bonjour Patrick, bonjour François. Merci
bienvenue.
D'avoir retenu ma question.
Arnaud de l'Oise.
Ma question est la suivante. J'ai dû abattre un cerisier en 2015, un cerisier qui avait au moins 50-60 ans parce qu'il devenait gênant pour la maison. Et l'automne suivant, j'ai planté un palmier au même endroit. Bon, j'avais quand même réussi à éliminer les plus grosses racines, mais j'avais pas pu retirer complètement la souche. Et mon palmier qui était magnifique, hein, il faisait pas quasiment 2 mètres de haut, il s'est desséché en quelques mois, comme s'il avait été dévitalisé. Et la question que je me pose, c'est est-ce que par hasard, le cerisier, une fois coupé, n'aurait pas relargué de l'acidité dans le sol ? Voilà.
Alors, c'est pas aussi simple que ça. Bon, il est certain que le cerisier en lui-même n'est pas une plante qu'on appelle allélopathique, c'est-à-dire l'allélopathie, c'est la faculté qu'ont certaines plantes d'émettre des substances ou parfois même des volatiles, donc ça peut être dans l'air, pour se protéger. On appelle ça aussi la télétoxie, c'est très connu sur le noyer par exemple, avec la jugulone, dont les feuilles ont vraiment une substance qui sert d'herbicide naturel, on va dire. Bon. Dans votre cas, le cerisier n'étant plus vivant, c'est plus au cerisier lui-même que vous avez affaire, mais à l'ensemble des bactéries qui vont et des champignons qui vont se mettre à décomposer ou travailler à la décomposition de la souche qui, elle, est restée dans le sol.
D'accord.
Et là, il est probable que vous aviez peut-être alors, soit des pathogènes, soit les conditions, on va dire, écologiques dans le sol à proximité de cette souche en décomposition n'étaient pas bonnes du tout. Donc c'est vrai que l'idéal, lorsqu'on détruit un arbre et qu'on veut replanter à la place, c'est d'extraire l'ensemble de la souche et même un maximum de racines et puis effectivement de changer une partie de la terre. Ça, c'est nécessaire pour obtenir des conditions à peu près correctes. Après, ce qui s'est passé exactement, ça, je peux pas vous le décrire vraiment parce qu'on n'en sait rien, mais c'est un ensemble de facteurs qui ont rendu, on va dire, les conditions défavorables pour la croissance de votre palmier. Alors, n'oubliez pas peut-être aussi, parce que ça, je pars sur ce que vous me dites, vous, mais est-ce que le choix de votre palmier était totalement judicieux ? Est-ce que l'emplacement pour ce palmier, vous êtes dans quelle région ?
Je suis plutôt dans la Picardie, mais enfin sud Picardie. Et j'ai d'autres palmiers tout autour qui se portent super bien.
Ça veut strictement rien dire, mon cher ami. Que dans les jardins, nous sommes tous soumis à des systèmes de microclimat. Il suffit effectivement qu'il y ait une haie ici, qu'il y ait un mur là, pour que les vents soient dirigés autrement, etc. On a vu souvent des plantes simplement séparés par un mur, pousser très bien chez monsieur X et ne pas réussir chez monsieur Y. Donc ça, c'est très très complexe à maîtriser. Non mais je disais ça parce qu'effectivement quand même la Picardie n'est peut-être pas le lieu l'endroit idéal pour le palmier. C'était un trachycarpus que vous avez planté ?
Oui, tout à fait.
Bon, ça va encore à peu près. Bon, c'est quand même des palmiers qui nécessitent des sols assez humifères, parce que ce sont des palmiers qui sont origine de Chine, des montagnes de Chine. Donc ça aussi, la préparation du sol, etc. Un grand palmier ou un grand arbre, c'est toujours plus difficile à reprendre qu'un petit. Donc vous voyez, il y a plein de conditions que l'on peut évaluer pour essayer de voir quelles ont été les raisons, parce que je pense que c'est pas une raison, il y en a plein qui ont fait que votre palmier n'a pas réussi. Mais voilà, c'était une question intéressante parce que cette idée justement d'amensalisme, de télétoxie, d'allopathie, qui sont des mots assez similaires, on n'en parle pas suffisamment alors que c'est très complexe et que ça existe.
Merci Anneau pour cet appel. 6h50, c'était RMC. Patrick, on va terminer avec votre coup de cœur, vos coups de cœur et deux manifestations incontournables pour les jardiniers.
Ah bah incontournable déjà, c'est les journées de Chantilly, là ça a commencé hier, donc c'est la plus importante fête des plantes de France, il y a plus de 250 exposants, il y a la thématique, ce sont les sans soucis, et ça se déroule effectivement face au fameux château du Grand Condé, c'est dans un endroit magique, et ça vaut le coup vraiment d'y aller si vous avez le temps, ou du moins si vous êtes dans la région. Et puis, pour ceux qui se retrouvent plutôt dans l'heure, donc là on est à l'ouest, on va avoir les automnales d'Harcourt dans le magnifique arboretum bicentenaire de ce domaine-là, une cinquantaine d'exposants, collectionneurs, donc aussi des gens qui sont extrêmement intéressants avec des plantes intéressantes et qui vous donneront des bons conseils. Donc c'est au domaine d'Harcourt dans l'heure. Et puis deux livres, un vrai coup de cœur pour Hortensia et Hydrangea d'aujourd'hui de Thierry de Riquel chez Ulmer. C'est un très très bon livre d'un pépiniériste qui dirige une pépinière en Belgique. Il est spécialiste d'Hydrangea. Il y a énormément de plantes qui vous sont présentées dans ce livre. Mais surtout, il vous présente des obtentions récentes pour pouvoir vous montrer à quel point le genre Hydrangea est important et surtout varié. Bon, c'est un peu catalogue, mais c'est quand même très très intéressant. Et puis, alors si vous débutez, si vous savez rien faire au jardin, vous pouvez commencer avec ce livre-là qui s'appelle Le Guide Larousse du jardinier débutant. Ça vient de la Royal Horticultural Society, donc qui est l'instance internationale du jardinage d'Angleterre et qui a été traduit par Larousse. Et ce livre-là vous propose des sortes de photogestes sur les techniques de base à connaître. Alors il n'y a pas tout, c'est un peu fourre-tout, mais c'est pas si mal fait, et surtout ça prend pas la tête parce que ce sont essentiellement des légendes avec des photos. Donc le guide du Larousse du jardinier débutant, 19,95€, donc en plus c'est pas trop cher, et vous pouvez vous mettre au jardinage avec ça.
Patrick, on sera là bien sûr samedi prochain entre 6h et 7h sur RMC.
On fera encore du jardinage. À tous, je vous dis bonne semaine, bon jardinage. Les jardinières, je vous embrasse, ma petite jardinière aussi, comme d'habitude. Et je fais un grand coucou à monsieur Christian.
Et moi, je te fais aussi un grand coucou. Comme ça, on fait des coucou.
Très bien. Ils sont en forme, tous les deux. Christian Pessé dans un.
C'était Nana Mouskouri. Coucou.
Ah oui, bon. Nana Mouskouri, Christian, coucou. Ça, c'est toute votre époque.
Voyons, ça va.
Ah, bah, un peu quand même.